Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, méditons ensemble sur le verset 261 de la sainte sourate Al-Baqarah. Notre frère Bouroumand vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset prône la largesse qui est bien récompensée par Dieu.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم.
Il est de ceux qui font largesse de leurs biens dans le sentier de Dieu, comme d'un grain d'où naissent sept épis à 100 grains l'épi, car Dieu multiplie en faveur de qui il veut. Dieu est immense, il sait.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver en ce dimanche 26 février 2023. Nous allons vous présenter tout de suite le journal suivi d'un commentaire politique. Le CGRI, Corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran, développe des missiles de croisière supersoniques indigènes. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, Téhéran et Pékin coopèrent pour le lancement d'Internet de cinquième génération en Iran. La première commémoration des martyrs des médias de la résistance aura lieu à Téhéran. Et puis une autre cargaison d'aide iranienne a été livrée à la Syrie après le séisme. C'étaient les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Téhéran et Pékin coopèrent pour le lancement d'Internet de cinquième génération en Iran. La plupart des équipements Internet de quatrième génération dans notre pays sont fabriqués en Chine et nous pouvons également utiliser des équipements chinois pour Internet de cinquième génération, a déclaré le ministre iranien des Télécommunications et des Technologies informatiques. Faisant référence à la coopération entre l'Iran et la Chine dans le domaine des technologies informatiques et de la télécommunication, Issa Zarepour a déclaré « Lors de la récente visite du président Raisi en Chine, le ministre iranien des Affaires étrangères a signé un accord avec la Chine dans le domaine des logiciels, du matériel et de l'espace qui contient diverses clauses et peut contribuer au développement de l'Iran dans ce domaine. » Concernant le rôle de la Chine dans l'expansion d'Internet aux cinquième génération en Iran, le ministre iranien des Télécommunications a ajouté « De nombreux équipements Internet de quatrième génération dans notre pays sont chinois et il est naturel que nous puissions également utiliser des équipements chinois pour Internet de cinquième génération. La Chine est le plus grand partenaire commercial de la République islamique d'Iran et selon les statistiques des douanes iraniennes, au cours des 10 premiers mois de l'année 1401, l'année civile iranienne, les échanges commerciaux Pékin-Téhéran s'élèvent à plus de 25,3 milliards de dollars. La 29e conférence sur l'énergie atomique se tiendra en Iran. Le 26 février, l'Iran accueille la 29e conférence nationale sur l'énergie atomique. La conférence nationale iranienne sur l'énergie nucléaire est considérée comme le plus grand événement scientifique et technologique du pays dans l'industrie nucléaire. La conférence abordera la physique, la technologie et la sécurité des réacteurs nucléaires, la détection et la dosimétrie nucléaire, le cycle du combustible et les matières nucléaires, l'agriculture nucléaire, sûreté, protection et stratégie nucléaire, médecine radiologique et médecine nucléaire, plasma et fusion nucléaire, génération et application de rayonnement et de quanta. La conférence est organisée par l'université Shahid Beheshti de Téhéran avec le soutien de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, dont l'Institut de recherche scientifique des sciences et technologies nucléaires et de l'Iranian Advanced Technology Company. La première commémoration des martyrs des médias de la résistance aura lieu à Téhéran. La première conférence de commémoration des martyrs des médias de l'Axe de la Résistance sous le titre « Narrateur de la Résistance » se tiendra à Téhéran le 27 février en présence des ministres et présidents de la Fondation des martyrs de l'Iran, du Liban, de la Palestine, de la Syrie, du Yémen et de l'Irak et de l'Afghanistan. Outre les ministres et présidents de la Fondation des martyrs des pays de l'Axe de la Résistance, un certain nombre de responsables politiques et de responsables des médias des pays amis de la région participeront également à la conférence des narrateurs de la résistance. Le titre de cette conférence fait visiblement allusion à la série télévisée de narration de la victoire réalisée par le martyr Avini, le grand journaliste iranien. Cette conférence se tiendra en présence de 140 familles de martyrs des médias des pays de l'Axe de la Résistance et de 200 familles des martyrs des médias iraniens dans le but de commémorer le statut des martyrs des médias dans la campagne de sensibilisation et la diffusion de la vérité dans le monde des médias et de ses réseaux sociaux. La première commémoration des martyrs des médias de la résistance aura lieu avec la participation de la Fondation des martyrs et de l'Union des radios et télévisions des pays musulmans. Un autre cargaison d'aide iranienne a été livrée à la Syrie après le séisme. Le 13e avion transportant de l'aide humanitaire iranienne pour les régions syriennes, touchées par le tremblement de terre, a atterri à l'aéroport international d'Alep. Le consul général d'Iran à Alep, Salman Navab Nouri, a déclaré que 387 tonnes d'aide humanitaire de la République islamique d'Iran ont été livrées à la Syrie par 13 avions jusqu'à présent. Il a noté qu'une cargaison d'aide humanitaire d'un poids total de 12 tonnes a été livrée à la ville d'Alep. Pour les habitants de la Syrie touchés par le tremblement de terre, il est à noter qu'il contient de la nourriture et du lait en poudre. L'un des tremblements de terre les plus puissants de l'histoire de la région s'est produit le 6 février 2023. Les sismologues ont enregistré des centaines de répliques, dont la plus forte a atteint une puissance de 7,6 sur l'échelle de Richter. Les investissements dans les ports iraniens ont augmenté de 17%. Le directeur adjoint de l'Organisation maritime et des ports iraniens, Jalil Eslami, a déclaré samedi que les investissements dans les ports iraniens au cours de l'année civile iranienne en cours, commençant le 21 mars 2022, avaient augmenté de 17%. Cette année, de nouvelles règles pour les plans intégrés pour les ports commerciaux ont été élaborées et annoncées, ainsi que de nouvelles règles investissement et un modèle de contrat d'investissement international pour les ports iraniens, a-t-il déclaré. M. Eslami a également qualifié la promotion du transit étranger par les ports du pays d'une haute réalisation de l'organisation. Enfin, un mot du sport. Le basket iranien qualifié pour la Coupe du Monde 2023. L'équipe nationale iranienne de basketball a réussi à vaincre le Kazakhstan avec un score de 98 contre 53, une victoire qui permet à l'Iran de participer dans la Coupe du Monde de basketball 2023. L'Iran a pu ainsi vaincre le Kazakhstan dans les matchs de qualification de la Coupe du Monde 2023. Avec ce résultat, la qualification de l'équipe nationale iranienne de basketball pour la Coupe du Monde a été confirmée. Il s'agit de la 4e qualification consécutive des basketteurs iraniens à la Coupe du Monde. L'Iran se rendra à la Coupe du Monde pour la 4e fois consécutive pour compléter le casting asiatique de cette année, a noté le compte Twitter de FIBA en publiant une photo des basketteurs iraniens avec en arrière-plan une image de la tour Azadi de Téhéran. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Merci. L'OCGRI développe des missiles croisières supersoniques indigènes. Le commandant en chef du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran, CGRI, a déclaré que les experts militaires développent et fabriquent actuellement des missiles croisières supersoniques capables d'intercepter et de suivre des satellites au moyen de radars au sol. Étant donné qu'un missile croisière parcourt la majeure partie de sa trajectoire de vol à basse altitude, il ne diffère guère d'un aéronef à voilure fixe qui ne peut pas se déplacer à grande vitesse. C'est pourquoi nous développons des missiles croisières capables de se déplacer à des vitesses supersoniques. Le processus par lequel le missile balistique supersonique est guidé pour frapper une cible mobile en mer est relativement compliqué et inédit. Se félicite samedi le général de division Hossein Salami lors d'une cérémonie à Téhéran. Aujourd'hui, nous pouvons intercepter des satellites à l'aide de radars positionnés au sol. De si grands progrès ont été réalisés par la jeunesse iranienne. Les jeunes forces militaires iraniennes peuvent désormais frapper n'importe quel navire en mouvement à une distance de milliers de kilomètres et peuvent même définir le point exact de la frappe pour que l'équipage du navire cible reste indemne, a-t-il ajouté. Les Américains cherchent obstinément à s'emparer des cœurs et des esprits de la nation iranienne et ils considèrent cela comme un rêve stratégique. Ils ont opté pour cette campagne après avoir constaté qu'ils ne pouvaient pas sortir victorieux sur le plan militaire. Ils ont utilisé tous leurs moyens stratégiques contre nous. Tout d'abord, ils ont fait appel à le dictateur irakien déchu Saddam Hussein et à ses alliés. Plus tard, ils ont propagé le virus des groupes takfiri dans les pays musulmans afin de les mettre sous leur contrôle. Leurs complots ont toutefois été déjoués grâce aux efforts déployés par le grand commandant de la lutte contre le terrorisme, le lieutenant général Qassem Soleimani. Ils se sont ensuite lancés dans une guerre économique, a déclaré Salami. Il a souligné l'expansion du domaine d'action de l'Iran, affirmant que la République islamique est désormais présente sur les côtes de la mer Méditerranée et de la mer Rouge, y a décomposé l'ennemi. La révolution islamique a chassé l'ennemi de son abri stratégique et l'a forcé à une expansion opérationnelle, a déclaré Salami, ajoutant que l'ennemi souffrait d'un manque d'initiative. Il a dit que le langage de la force est la seule façon de traiter avec les puissances arrogantes, parce que l'ennemi ne connaît pas le pouvoir de la logique alors qu'il accepte la logique du pouvoir.
Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du débat de Presse TV français en ce samedi 25 février. Nous sommes en direct depuis la capitale iranienne, Téhéran, également depuis le studio de Presse TV français. La Grande-Bretagne a imposé de nouvelles sanctions contre la Russie, mais également contre l'Iran. Des liens entre l'Iran et la Russie qui apparemment ne plaisent pas à l'axe occidental, des liens multilatéraux dans le domaine économique, politique ou militaire qui ne passent pas pour l'axe US-OTAN-Israël. Quel est l'objectif de ces pressions de part et d'autre imposées non seulement par la Grande-Bretagne, mais par l'Union européenne et aussi par les États-Unis? Que se cache-t-il réellement derrière ces pressions et ces sanctions? Nous allons répondre à toutes ces questions avec nos deux invités de l'autre bout du monde. Mais avant de vous les présenter, je vous propose de regarder un reportage préparé par mes collègues à ce sujet. On revient tout de suite après.
Le Royaume-Uni a annoncé vendredi de nouvelles sanctions contre des entités russes et imposé une interdiction d'exportation d'articles utilisés par la Russie sur le champ de bataille. Les sanctions sont incluses dans les centaines de marchandises, des pièces d'avion, des équipements radio et des composants électroniques qui peuvent être utilisés par le complexe militaro-industriel russe, y compris dans la production de drones, indique un communiqué. Aujourd'hui, nous sanctionnons les élites qui dirigent les industries clés de Poutine et nous nous engageons à interdire l'exportation vers la Russie de chaque article que la Russie utilise sur le champ de bataille, a déclaré Cleverly. Le Royaume-Uni a sanctionné des cadres supérieurs de la société d'énergie nucléaire russe Rosatom ainsi que des cadres des deux plus grandes sociétés de défense russes, de quatre banques et d'autres élites russes. Des sanctions ont également été annoncées contre six entités russes impliquées dans la fabrication ou la réparation d'équipements militaires pour les forces armées russes, y compris l'aviation et la marine. La République islamique d'Iran considère les accusations des pays occidentaux comme faisant partie d'une intensification des pressions visant à faire pression sur elle pour qu'elle cède aux exigences excessives de l'Occident dans les pourparlers sur le nucléaire.
Voilà, nous sommes de retour sur le plateau. Je vous présente nos deux invités, l'un qui est avec nous depuis la Russie Moscou, Fabrice Béor, expert pour l'ONG EOD, également juriste en droit international et iranologue Morgan Lotz, qui est avec nous depuis la France, Alsace. Je vous dis bonjour messieurs, merci de nous avoir accordé votre temps pour ce débat, pour cette émission. Alors Fabrice Béor, vous qui suivez de très près les évolutions en Russie, entre la Russie et l'Ukraine, mais aussi les relations entre l'Iran et la Russie, des relations qui se renforcent de jour en jour. Dans un premier temps, comment interprétez-vous les objectifs de ces pressions de part et d'autre exercées par l'Occident?
La politique des sanctions a toujours été la politique américaine première, c'est asphyxier le pays pour l'affaiblir de l'intérieur et de porter après le coup final pour sa destruction. Ils le font parce que c'est plus, entre guillemets, jusqu'à présent, c'était plus économique pour eux que d'envahir un pays, puisqu'à l'heure d'aujourd'hui, ils n'en ont pas les moyens, ou s'ils en auraient, ce serait rentrer dans une politique qu'ils ne veulent plus. Ils pratiquent la politique des sanctions depuis très longtemps. Vous savez, la Russie, ça ne date pas depuis l'année dernière. Ils en ont depuis un certain nombre d'années, depuis 2014, même d'ailleurs depuis un peu 2008, mais surtout depuis 2014. Et le retour de la Crimée en Russie. Mmh. Donc vous avez aujourd'hui cette politique de sanctions, d'abord contre la Russie, après sur le Bélarus, et maintenant sur, de nouveau, puisque votre pays est malheureusement habitué à cela, la Russie est passée devant l'Iran sur le nombre de sanctions, mais ce n'est pas quelque chose auquel on peut se féliciter, évidemment. Mais pour autant, on peut, et je terminerai là-dessus pour répondre d'un premier jet à votre question, oui. C'est que nous avons la démonstration, c'est que le développement, on est au 10e paquet de sanctions contre la Russie, dans le développement des sanctions tout azimut contre tous les pays, où on a vu avec le G7 qui dernièrement, d'une manière très diplomatique selon eux, mais qui ont menacé en fait les pays du monde entier, qui n'était pas bien de ne pas écouter leurs sanctions et de les contourner, c'est-à-dire de ne pas appliquer la politique occidentale contre la Russie, puisque on peut considérer que c'est une affaire qui les, qui ne nous concerne pas. Je parle de la part des pays qui ne les ont pas appliquées et qui continuent donc à commercer avec la Russie. On peut considérer qu'ils sont dans une fuite en avant. Et la fuite en avant démontre que si certaines sanctions font leur effet, ils ne font pas l'effet qu'ils ont escompté. Et donc, ils sont aujourd'hui confrontés à une réalité et ne pouvant remettre en cause leur logiciel, c'est-à-dire ne comprendre ou de même de négocier, de faire un pas en arrière pour négocier une solution, ils ne le feront pas. Donc, ils vont dans la fuite en avant. Mais ça démontre donc l'inefficacité par rapport à leur projet, des sanctions qu'ils ont faites, qu'ils continuent donc à mettre des sanctions. Mais je terminerai là-dessus, c'est assez amusant de voir que l'Angleterre émet des sanctions contre certains matériels qu'ils ne produisent pas, que la Chine produit par exemple. C'est assez amusant de voir l'Union européenne met des sanctions contre des terres rares pour qu'elle a exporté en Russie, mais elle n'en produit pas. On est dans le monde irréel aujourd'hui où ils confondent la communication, donc la propagande de guerre, et les réalités économiques et les rapports de force.
Exactement. Merci pour vos explications, Fabrice Peur. Restez en ligne. Maître Lotz, vous êtes avec nous. Est-ce que vous m'entendez? Morgan Lotz, est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Alors apparemment, la connexion a été coupée avec Morgan Lotz en attendant que mes collègues rétablissent la connexion. Fabrice Béor, à votre avis, jusqu'où ces sanctions, ces pressions de part et d'autre se poursuivront vu les évolutions, les échanges entre l'Axe de l'Est, le renforcement des liens entre les pays de l'Axe de l'Est? Est-ce que l'Union européenne cessera un jour ces menaces et ces sanctions et ces pressions en vain?
L'Union européenne, qui n'est que, et on a la confirmation par les accords officiels qu'ils ont fait avec l'OTAN dernièrement, l'Union européenne n'est que le département civil de l'OTAN, l'OTAN étant l'outil de contrôle politico-militaire de l'impérialisme américain sur ses colonies européennes. Donc il n'y a pas de vraie décision européenne, si ce n'est de vouloir être plus royaliste que le roi américain, et ils font plus que même les États-Unis font vis-à-vis de la Russie. J'indiquerai que nous sommes au 10e paquet de sanctions de l'Union européenne contre la Russie, et les deux derniers, voire les trois derniers, et en particulier le dernier, le dixième, qui a été appliqué officiellement hier, je crois, a vu en fait énormément d'exemptions, comme on dit, beaucoup de pays, chacun défendant son beefsteak, ce qui est tout à fait normal, sur l'uranium, sur Rosatom, sur le caoutchouc, etc., etc. Beaucoup de pays ne sont pas d'accord aujourd'hui. Et donc, la soi-disant unité d'acier de la communauté occidentale, de l'Union européenne, n'est en fait qu'une façade, puisque aujourd'hui, devant les sanctions qui ont surtout sanctionné les pays qui les ont émis, et en particulier la zone de l'Union européenne, fait que dans la crise dans laquelle ils commencent à s'enfoncer, les lignes rouges de ses propres pays sur cette fois-ci ce qui est vital pour leur économie commencent à défendre leur précaré. Au début, on pensait qu'il y avait la Hongrie, mais aujourd'hui, il y a même l'Italie sur certains domaines. Après, vous avez la Bulgarie dans d'autres, même la France d'ailleurs dans d'autres domaines. Enfin bon, c'est le chacun pour soi. En réalité, c'est un peu comme dans le Covid, grande façade d'unité. Et en fait, chacun est se tirer dans les pattes pour des histoires de masques, etc. Là, on est vraiment à puissance 1000 de tout cela. Donc, je ne vois pas, évidemment, de résolution en elle-même, on va dire. Vous savez, ils changeront lorsqu'ils seront en face de la réalité sur le terrain, c'est-à-dire la victoire militaire russe, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, le pire ennemi qu'ils peuvent avoir, le bloc américano-occidental, les Américains, à la rigueur, savent plus ou moins ce qu'ils font. C'est les Européens qui sont totalement... à l'Ouest, l'expression est bonne d'ailleurs, c'est qu'ils arrivent à croire à leur propre propagande, et c'est ça qui est pire. Et devant la réalité des faits, ils la nient, ils nient les réalités, ils nient les vidéos, ils nient leurs propres déclarations des fois, et ils ne seront... c'est aussi un danger, puisqu'ils montent l'escalade sans comprendre qu'en franchissant une étape, des fois c'est difficile de faire marche arrière. Et envoyer des chars allemands sur le terrain ukrainien, ça va être difficile de faire marche arrière pour des solutions diplomatiques ultérieures, puisque ça rappelle des souvenirs historiques pas très sympathiques pour le peuple russe. Et donc, vous avez une situation où, comme toujours, il y a les déclarations occidentales, on voit qu'ils sont de plus en plus, ils se tirent un peu dans les pattes parce que tous les pays n'ont pas les mêmes intérêts et beaucoup en ont un peu marre en réalité, même la France et l'Allemagne, mais ils n'ont pas le courage, ils demandent aux autres d'avoir le courage de le faire. Et ils demandent d'ailleurs à Zelensky d'avoir le courage de faire la paix, alors parce
Oui.
qu'il pourrait, hein, il suffirait qu'il leur coupe les vivres. Mais vous
Exactement.
avez la Pologne et l'Angleterre, justement, qui sont les têtes de pont au sein du bloc de l'OTAN, de l'hystérie russophobe. Et donc, vous avez aujourd'hui cette situation où quelques pays vont essayer d'aller à l'extrême, certains commencent à se soustraire, les sanctions commencent à se fissurer, et ça ne s'arrêtera, ou tout du moins, certains commenceront à ouvrir les yeux au moment où la question d'ordre militaire sur le devenir du conflit en Ukraine sera résolue. Quand
Merci.
est-ce? Ça, c'est une question que personne n'a entre les mains.
Exactement. Merci Fabrice pour rester en ligne. Je pense que la connexion a été rétablie avec Maître Lotz. Est-ce que vous êtes là? Allô, allô? Alors, malheureusement, la connexion a encore été coupée. Malheureusement, je pense qu'il y a des problèmes de connexion aujourd'hui avec la France. Donc, Fabrice Béhor, on va continuer avec vous. En ce qui concerne, peut-être on va se pencher un tout petit peu ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. Les pressions encore de part et d'autre des Occidentaux sur la Russie, les aides militaires en masse vers l'Ukraine. Aujourd'hui aussi, c'est l'anniversaire du début de cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Donc, quelle est votre interprétation sur ce sujet?
Certaines personnes à l'Ouest ne veulent pas faire, on peut voir cette différence, mais elle existe en Russie. Ce n'est pas une guerre contre l'Ukraine ou le peuple ukrainien, c'est une guerre contre la junte qui est au pouvoir à Kiev, qui a pris en otage le peuple ukrainien. Parce que lorsqu'on voit en Occident, évidemment, il y a des Ukrainiens qui sont certainement d'ailleurs peut-être patriotes, mais ceux qui sont au pouvoir et au sein de l'armée sont des gens avec une idéologie qu'on appelle bendériste, qui en fait est très nazi, hein. C'est pour ça qu'on les appelle les Ukro-nazis. Mais vous avez énormément de gens qui sont contre. Les plus de 5 millions de personnes ukrainiens qui sont allés se réfugier également en Russie, sont-ils, on va dire, contre la Russie? Et dans ceux qui sont partis à l'Ouest, il y a beaucoup de gens qui ont simplement profité aussi de l'opportunité pour quitter un pays et pour rentrer dans l'Union européenne auquel auparavant ils n'avaient pas le visa. Donc il y a aussi une opportunité économique chez beaucoup, et beaucoup ne reviendront pas dans ce pays. C'est une évidence. Un pays qui, en 1991, avait presque 50 millions d'habitants, et aujourd'hui, s'ils en ont 22, 23, c'est le grand maximum. C'est un pays qui se vide, et pas simplement depuis février de l'année dernière.
Oui.
Parce que l'Ukraine, c'est un pays qui n'a pas... C'est la Russie des années 90, c'est-à-dire chaotique, qui n'est jamais sortie de cette période-là, en réalité. Ils n'ont jamais eu leur Poutine qui a permis de redresser le pays. Donc, les relations entre les pays, eh ben, aujourd'hui, ils n'existent plus, bien évidemment. Les Russes ont toujours dit, Poutine avait dit, l'effondrement du RSS a fait que énormément de Russes se sont retrouvés en dehors des frontières de la Russie. Bon, si les pays respectent les droits de ces populations, il n'y a aucun souci, du moins qu'on fait un accord de bon voisinage et qu'on respecte les droits des minorités russes, il n'y a pas... Eh ben, on le fera avec, voilà. Sauf qu'en Ukraine, ils n'ont pas voulu faire avec, ils ne le font pas avec. Ils parlent de société démocratique, etc., mais on empêche par les lois de parler dans les magasins en russe, de parler à l'université en russe, que les étudiants dans les universités, dans leur conversation privée,
oui.
entre deux étudiants, ne parlent pas en russe, etc., etc.
Fabrice Thor, désolé de vous interrompre,
oui.
il semblerait
oui.
que la connexion est rétablie avec Morgan Lotz. Avant qu'on soit encore déconnecté, je voudrais dire bonjour à Morgan Lotz. Est-ce que vous nous entendez, maître?
Bonjour, je vous entends parfaitement, j'espère qu'il en est de même de votre côté.
Très bien, merci beaucoup, désolé pour les déconnexions et les problèmes de connexion. Morgan Lotz, on a évoqué le sujet jusqu'ici avec Fabrice Béhor, en ce qui concerne ces sanctions et ces pressions exercées par l'Occident contre l'Iran et la Russie, mais également le renforcement de l'axe de l'Est, à savoir l'Iran, Russie et la Chine, dans le monde multilatéral d'aujourd'hui. Quelle est votre analyse à ce sujet?
Bien, tout d'abord, nous constatons que l'Union européenne est sans cesse alignée sur les États-Unis, ce qui apparaît tout à fait comme un aveu de faiblesse. L'Europe n'est aujourd'hui pas capable d'avoir une politique interne, une politique étrangère totalement indépendante des États-Unis. Personnellement, ce que nous remarquons dans les médias occidentaux, c'est cette accusation constante contre la Russie, la Chine ou l'Iran, sans toutefois préciser la présence militaire des États-Unis dans le monde. Il y a une application qui est sortie et qui peut être trouvée sur Internet qui recense toutes les bases militaires américaines et on se rend compte que les Américains sont présents partout sur la planète. Et pourtant, on présente la Russie, l'Iran ou la Chine comme l'agresseur. Mais aucune de ces accusations n'est capable de démontrer une quelconque présence militaire iranienne aux frontières de l'Union européenne, aux frontières de l'Afrique ou même aux frontières des États-Unis. C'est une propagande européenne qui joue sur les peurs. Il y a quelques mois, on nous avait parlé des missiles russes qui étaient capables de frapper la France et la Grande-Bretagne en quelques minutes. D'ailleurs, la BBC britannique avait utilisé l'expression 300 et quelques secondes. Donc on voit bien que le terme seconde est là pour faire peur aux gens. Mais personnellement, je souhaite renvoyer la balle aux Britanniques. Ils parlent des missiles russes capables de frapper la Grande-Bretagne ou la France. Mais qu'en est-il des missiles français, américains ou britanniques, qui eux ont la possibilité également de frapper la Russie, l'Iran ou la Chine? C'est une technologie qu'ils maîtrisent depuis plus longtemps que les Iraniens, par exemple. Il y a également un énorme silence sur la présence militaire américaine en Europe. Il faut savoir que les États-Unis ont déployé des bases militaires partout en Europe, excepté en France pour le moment, et qui ont déployé leur arsenal atomique, notamment pour la base militaire la plus célèbre, qui est celle de Ramstein, en Allemagne de l'Ouest. Donc il y a un silence constant dessus. On nous présente d'autres blocs politiques comme l'agresseur, mais l'Occident passe sous silence ses propres activités militaires chez les autres. Ça, c'est déjà un énorme problème. Et on constate que cette politique de sanctions est dirigé également contre l'Iran, qui est un allié de la Russie, mais aussi un partenaire commercial.
Oui.
Ces sanctions qui se rajoutent sans cesse sont également une preuve d'échec des Occidentaux. Cela fait 44 années que l'Iran vit sous sanctions, mais ça n'empêche pas des réalisations. Quel pays autre que l'Iran, après 44 années de sanctions, est capable de déployer plusieurs satellites dans l'espace? Satellites qui, précisons-le, sont conçus à 100% par des ingénieurs iraniens en Iran avec du matériel iranien, sous sanctions, c'est tout simplement exceptionnel. Aujourd'hui encore, l'Iran a donc dévoilé un nouveau missile de croisière hypersonique. Donc, pour rappel, un missile de croisière hypersonique, c'est un missile qui dépasse une vitesse de Mach 5, soit 5 fois la vitesse du son. Donc, on découvre que ces missiles sont capables de frapper des cibles situées à 2000 km. Donc, on comprend aisément que dans le collimateur iranien se trouve la flotte américaine dans les océans Indiens, en mer Rouge ou en Méditerranée. Donc, c'est une dissuasion iranienne vis-à-vis d'une éventuelle intervention ou d'éventuelles frappes américaines ou israéliennes en Iran. Pourtant, une fois de plus, on médiatise le missile hypersonique iranien. Mais dans les faits, les missiles hypersoniques, les Russes et les Chinois maîtrisent cette technologie. Les Américains sont apparemment en retard ou c'est ce qu'ils veulent nous faire croire. La France également est réputée très performante, même si elle reste discrète dans cette technologie. Donc une fois de plus, on essaye de nous présenter l'Iran et la Russie comme l'axe du mal, pour reprendre le terme de George Bush en 2002. Mais qu'en est-il des accusateurs? Vous savez, dans un procès, on passe en revue les faits et on regarde également le plaignant et l'accusé. Et on se rend compte que là, le plaignant, qui est donc le bloc occidental, n'est pas vierge de tout crime, bien au contraire. Alors les Américains ont beau douter des technologies iraniennes, j'aime beaucoup cette réponse du général des gardiens de la révolution islamique, le général Amir Ali Al-Jazadeh, qui est commandant de la force aérospatiale du corps des gardiens de la révolution islamique, qui a répondu « Si les Américains n'ont pas confiance, ce n'est pas important. Le jour de la confrontation, les choses seront claires. »
Oui.
Donc
oui.
On constate une propagande occidentale contre l'Iran, mais ça traduit, si on regarde bien les choses en profondeur, ça traduit une crainte, une peur du bloc occidental qui se voit dépassé, autant sur le plan militaire que sur le plan politique. Aujourd'hui, l'Iran, malgré les sanctions, commerce avec l'Inde, avec la Chine, avec la Russie, avec l'Afrique. La Russie et l'Iran sont capables de développer des échanges commerciaux contournant les sanctions. Ils souhaitent même d'ailleurs adosser leur monnaie à l'or, ce qui est tout à fait exceptionnel, vu que le dollar n'est adossé à rien du tout. Le dollar, c'est une monnaie de singe qui ne vaut rien. Donc, adosser une monnaie étrangère à l'or, ça va être catastrophique pour les États-Unis.
Exactement. Merci pour vos explications, Morgan Lotz. Restez en ligne, s'il vous plaît, Fabrice Béor. Je vous ai interrompu en plein milieu de votre analyse en ce qui concerne la situation entre la Russie et l'Ukraine. Nous avons près de 2-3 minutes devant nous, donc je vous écoute. Si on pourrait aussi avoir un dernier mot de Morgan Lotz, ça serait ça.
Je vous avoue, je ne sais plus où j'en étais par rapport à cela, mais on va essayer de résumer rapidement. Déjà, la détérioration, vous savez, le jeu en Ukraine est un vieux jeu. Ça n'a pas commencé l'année dernière, ça n'a pas commencé ni en 2014, ça a commencé en 1991, à la dislocation donc, de l'URSS et à la création de l'État ukrainien. Et donc, vous avez depuis, avec en particulier le Maïdan, vous avez Mme Nuland qui avait dit très clairement ils avaient dépensé des milliards de dollars et ce n'était pas pour revenir en arrière, puisque le jeu en Ukraine a toujours été, en réalité, vous aviez la partie pro-occidentale qui gagnait, après c'était la partie pro-russe qui gagnait, mais le plan américain n'était pas de continuer ce jeu de bascule, et il fallait arrêter ce jeu de bascule pour qu'il soit dans le camp dit occidental, ce pourquoi vous avez eu, malgré des accords qui avaient été signés l'après-midi, le soir même, un coup d'État qui a fait fuir le président à l'époque, et après le Maïdan, et le refus des populations de Crimée d'abord, et aussi du Donbass, de ce coup d'État. Et la suite, on le connaît pendant 8 ans. Les accords de Minsk qui n'ont pas été appliqués, puisque ça a été indiqué par les signataires de Berlin et de Paris, et même de Kiev, qui n'était pas question que c'était juste un délai pour se réarmer contre la guerre, pour préparer la prochaine guerre. Quand vous mettez ça en relation avec la politique des conservateurs américains, qui écrivent noir sur blanc que leur objectif est d'abord de s'attaquer à la Russie pour la disloquer en plusieurs États avant de passer à l'affrontement avec la Chine. Vous avez compris qu'on ne passe plus de la possibilité dit complotiste. Je dis ça parce qu'en France, beaucoup de gens emploient ce terme, mais les gens qui l'emploient et les têtes de gondole de la russophobie en général sont très peu lecteurs des écrits nord-américains qui pourtant ont l'avantage d'écrire et surtout d'indiquer exactement ce qu'ils vont faire et ce qu'ils font. Et vous avez donc aujourd'hui, en écho à cela, cette situation, et Poutine a très bien compris, il l'a indiqué dans sa dernière allocution à l'Assemblée fédérale, donc la veille, c'était le 23, le 23 février de ce mois-ci, où il a bien indiqué qu'ils avaient bien compris, qu'en Russie, on avait bien compris que c'était un affrontement et que l'Ukraine n'était qu'un pion, n'était qu'un proxy par rapport à cela. Et c'est cela, et je terminerai là-dessus, c'est cela effectivement qui attriste et que la Russie ne pardonnera pas aux pays de l'Union européenne, c'est en sachant cela, de continuer à faire perdurer une guerre dont la finalité sera toujours la victoire de la Russie. Ça, personne ne peut en douter lorsqu'on se ment pas à soi-même et qu'on n'est pas de mauvaise foi. On ne pourra pas pardonner le fait qu'ils ont sacrifié des vies, que ce soit russes, mais surtout ukrainiennes, pour quelque chose qui finira aux avantages des États-Unis et pas du tout des intérêts européens. Et ça, c'est quelque chose, c'est une grande déception en Russie, et que le bloc américano-occidental ne compte pas sur la Russie pour subventionner ce qui va rester de l'État ukrainien. Je dis bien qu'il va rester, et je terminerai là-dessus, parce que les nouveaux territoires qui ont été intégrés à la Fédération de Russie ne reviendront pas. S'ils continuent à ne pas vouloir négocier et que la Russie est obligée d'avancer pour détruire l'armée ukrainienne, ce qu'il en restera tout du moins, il y a d'autres territoires de la Novorossiya historique qui peuvent être libérés et intégrés à la Russie. Je pense de Kharkov, je pense également à Odessa. Mm-hmm. Et je pense que la Pologne non plus n'est pas désintéressée avec certaines régions et que la Hongrie pourrait devenir protectrice de sa minorité. Je ne parle pas en plus des Slovaques. Donc il ne va pas rester grand-chose. Et malheureusement, ce qui aurait pu être un pont entre les deux Europes et qui lui aurait été profitable d'un point de vue économique, comme toujours, nous avons vu quelques corrompus, plus quelques extrémistes qui se sont soumis à la volonté étrangère américaine et ils vont finir par détruire ce qui était leur fantasme d'un État ukrainien unitaire. Telle est la volonté. Donc les relations entre la Russie et l'Ukraine, vous savez, aujourd'hui elles sont déjà déterminées, puis c'est Washington qui décide, c'est pas Kiev et c'est pas Bruxelles.
Merci infiniment. Alors, malheureusement, l'émission touche à sa fin. On aurait aimé avoir un peu plus de temps pour avoir encore les analyses de nos deux invités, de Morgan Lotz, juriste en droit international et iranologue, également de Fabrice Béor, expert pour l'ONG EOD. Merci également à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette émission. Je vous dis au revoir et à très bientôt.
Afrique économique.
Mesdames et messieurs, bonjour, chers auditeurs et auditrices. Merci de nous suivre pour une nouvelle édition de l'Afrique Économie, une émission qui vise de analyser et de passer en revue les informations économiques les plus importantes dans le continent africain. Restez avec nous. Le secteur des technologies de l'information et de la communication prend de plus en plus de place dans l'économie nigériane. Au troisième trimestre 2022, le secteur a contribué à hauteur de 15,35% au PIB du Nigeria. Les activités du secteur des technologies de l'information et de la communication ont contribué à hauteur de 16,22% au PIB réel du Nigeria au quatrième trimestre 2022. Ce chiffre est supérieur à sa contribution de 15,21% au même trimestre 2021 et au 15,35% du troisième trimestre 2022. C'est ce qu'indique le dernier rapport du Bureau national des statistiques publié le mercredi 22 février. En valeur nominale, les TIC ont contribué à hauteur de 10,42% au PIB nominal total au quatrième trimestre 2022, soit un taux supérieur à celui de 9,88%. Enregistré au même trimestre de 2021 et au 9,58% du trimestre précédent. Pour l'ensemble de l'année, la contribution totale des TIC au PIB du pays s'est élevée à 16,51%, soit plus que les 15,51% enregistrés en 2021. Cette croissance intervient au terme d'une année financière 2022 compliquée, marquée notamment par une augmentation considérable des coûts d'exploitation, la flambée du prix du diesel, la pénurie en énergie électrique, l'affaiblissement du Naira, la carence en devises étrangères, la taxation multiple. Le secteur des télécommunications continue de porter la croissance du secteur des TIC nigérians. Le sous-secteur a contribué au PIB à hauteur de 13,55% en valeur réelle contre 12,85% au trimestre précédent. Selon la Nigerian Communication Commission, les opérateurs télécoms ont vu leur parc d'abonnés augmenter de 13,89% au cours de l'année pour atteindre 222,3%. La croissance du PIB angolais devrait se consolider en 2023, tandis que l'inflation est en baisse. L'information émane d'un communiqué du Fonds monétaire international publié jeudi 23 février. D'après le Fonds, la croissance atteindra 3,5% cette année, soit 0,7 points de plus que 2022 et 2,4 points de plus que 2021. Cette croissance sera soutenue par le programme de réformes structurelles mis en œuvre par les autorités et appuyant le secteur non pétrolier. La résilience de celui-ci, ainsi que la hausse des prix du pétrole et l'amélioration de la production pétrolière, contribueront également à la bonne santé de l'économie, poussant même la croissance globale à environ 4% à moyen terme. Quant à l'inflation, elle a baissé de plus de 13 points, passant de 27% à fin 2021 à 13,8% à fin 2022. Pour cette année, les projections du FMI la situent à 12,3%,
Cette réduction de l'inflation sera induite sous l'effet de la baisse des prix mondiaux, des denrées alimentaires, de la hausse du Kwanza et des efforts antérieurs de la Banque centrale pour resserrer la politique monétaire. Bien que la dynamique économique du pays d'Afrique centrale soit félicitée, le fonds note aussi plusieurs facteurs de risque, les vulnérabilités persistantes et l'incertitude mondiale élevée, et particulièrement la persistance des risques pour la stabilité des prix pourrait recommander donc des ajustements ambitieux et favorables à la croissance pour atteindre les objectifs du programme de réforme. Le ratio de la dette publique aux Pays-Bas a diminué de 17,5 points de pourcentage du PIB selon les estimations pour s'établir à 66,1% du PIB grâce à un taux de change plus fort. Selon les estimations, la balance courante est restée largement excédentaire en 2022, tandis que la couverture des réserves en devises étrangères est restée adéquate, indique le communiqué. Kenya, l'industrie du textile et de l'habillement est le premier pourvoyeur d'emplois. Au sein du secteur manufacturier, les investissements dans cette branche économique sont cruciaux, non seulement du point de vue social, mais aussi pour substituer les importations. Au Kenya, le groupe textile Balaji vient d'obtenir un investissement de 25,3 millions de dollars en dette manzanienne pour la rénovation de son unité de fabrication de vêtements basée dans la zone franche d'exportation de Nairobi. Cette enveloppe est allouée conjointement à part égale par l'Institution norvégienne de financement de développement avec le troisième fonds Mezzanine Partners géré par la firme sud-africaine de capital investissement Ethos Private Equity. Avec ce montant, la compagnie qui est l'un des plus importants fabricants de vêtements d'Afrique subsaharienne entend procéder à l'acquisition de nouvelles machines à laver modernes et plus économiques en substitution aux vieilles machines existantes. Selon les responsables, cette démarche devrait permettre à l'entreprise de réduire sa consommation d'électricité de 20 à 30%, sa consommation d'eau de 70% et son utilisation de produits chimiques de 60%. Une partie de l'enveloppe servira également à financer l'achat de machines à coudre supplémentaires pour accroître la production de vêtements de l'usine. En ce qui concerne les retombées socio-économiques, il est prévu la création à terme de 12 000 emplois directs et indirects au sein de la chaîne de valeur du textile et de l'habillement. Nous sommes maintenant plus que jamais engagés à soutenir le développement de l'écosystème de la chaîne d'approvisionnement locale autour de notre secteur en appuyant et en aidant les micro, petites et moyennes entreprises à faire partie de la chaîne d'approvisionnement, a déclaré Amit Bedi, directeur général du groupe Balaji. En Afrique, les mini-réseaux ont été identifiés comme une solution efficace pour répondre à l'absence de couverture électrique, surtout dans les zones rurales. À Ouagadougou, le 16 février 2023, le ministère burkinabé de l'énergie, le PNUD ainsi que le Fonds mondial pour l'environnement, ZEF, ont lancé le Burkina Faso National Project of Africa Mini-Grid, ce programme. Actif dans 21 pays africains et mis en œuvre au niveau régional par le PNUD, le projet AMP vise à accroître l'accès à l'énergie propre en promouvant des investissements commerciaux à grande échelle dans les mini-réseaux solaires photovoltaïques du pays. Moins d'une semaine avant ce lancement, le projet AMP avait démarré officiellement en Somalie. L'AMP se concentrera en particulier sur la facilitation de l'innovation et des transferts de technologies dans les solutions décentralisées, des distributions et de stockage d'énergie renouvelable. d'une durée de 48 mois pour un coût total de plus de 1,75 million de dollars. Il devrait contribuer de manière significative à accélérer les efforts d'électrification rurale du Burkina. Les pays affichent un taux d'électrification de 19% en 2020. Selon la Banque mondiale, dans les zones rurales, ce taux est encore plus faible, se situant à près de 10% en 2019.
N'hésitez pas à suivre nos émissions sur notre site http://parstoday.com/fr. Pars Today est active essentiellement sur la toile et les réseaux sociaux, mais il diffuse son contenu en ondes courtes ou encore via des applications mobiles. Les toutes dernières évolutions politiques au Moyen-Orient, le rôle axial qui joue l'Iran en qualité d'une puissance régionale et pays à la fois sûr et prospère sont largement traités à travers les articles et les émissions présentes sur le site Pars Today, ce qui en amplifie l'importance dans la sphère médiatique régionale. Le service français de Pars Today utilise divers médias pour présenter ses productions politiques, culturelles et religieuses. Son objectif n'est que de permettre aux internautes de voir plus clair dans un monde où les médias mainstream manipulent l'opinion. Les locuteurs français pourront suivre l'actualité iranienne, moyen-orientale et africaine et francophone sur Pars Today à l'adresse suivante http://parstoday.com/fr. aquí.